qui est vraiment Michael Schumacher. Admiré pour sa maîtrise au volant, contesté pour son âpreté en piste, le pilote de Formule 1 allemand a suscité pendant sa carrière des kilomètres de commentaires et d'analyses. Aujourd'hui contraint au silence, le septuple champion du monde demeure cependant une énigme. Pendant plus de 20 ans, le journaliste Pierre Van Vliet a couvert ses exploits et ses déconvenues. Dans cette série de podcasts, il tente de cerner le génie et les failles du septuple champion du monde, mais aussi de comprendre les ressorts de l'homme de Kerpen.
La photo est en noir et blanc. Un gamin avec une frange très 70s nous regarde droit dans les yeux. Le menton est proéminent, le visage plat. Il tient un casque sous son bras et porte une veste en cuir. Celle-ci porte le blason de la Société des Amis du Sport Auto du comte Von Trips. Ce club, qui honore un as de la F1 tombé bien avant la naissance de l'enfant, organise des compétitions sur un circuit de karting situé dans le bourg de Kerpen, à l'ouest de l'Allemagne. Et le jeune Michael Schumacher, le mioche de la photo, a déjà eu droit à un article dans le journal du coin. À 6 ans, il est devenu le plus jeune pilote de la République fédérale.
Schumacher acheté des maus.
Schumacher prend la tête maintenant, le freinage en descente.
And Schumacher is up with Damon Hill. The Ferraris are second and third.
Die letzte Hoffnung des Michael Schumacher sein.
Oh, look at Michael Schumacher. He's blocked his brakes.
Épisode 1, Monsieur Rolf et Monsieur 20%.
Ja, Michael Schumacher, haben Sie heute schon drei Kerzen aufgestellt, dass Sie Mercedes-Pilot sind und nicht die Porsche fahren müssen?
Nun gut, ist natürlich schon für mich eine wahnsinnige Sache, bei Mercedes fahren zu dürfen und an dem Erfolg teilhaben zu dürfen, neben Jochen zu fahren. Das ist schon, muss man sagen, mit das Größte. Und wir haben nun mal sehr viel Erfolg, weil die ganze Teamarbeit und das Ganze drum und drum stimmt.
Pierre Van Vliet, avant d'aborder la carrière de Michael Schumacher, nous allons évoquer son enfance. Qui sont ses parents?
Alors, ses parents sont des gens très modestes. Hein. Michael, c'est vraiment une origine sociale laborieuse dans l'ouest de l'Allemagne, la région de Cologne. Le père est maçon, donc travaille dans le bâtiment. La mère, Elisabeth, est plutôt... elle fait des ménages et voilà, elle est plutôt femme au foyer et mère de famille, avec Michael et son petit frère Ralph, qui arrivera quand même quelques années plus tard. Donc voilà, rien ne prédisait une grande carrière à Michael, si ce n'est que le côté bricoleur de génie de Rolf, le père. Michael, à 3-4 ans, il s'est retrouvé assis sur un kart parce que ça... Voilà, le père avait les capacités de le bricoler et il se fait qu'il y avait effectivement cette piste de karting à Kerpen à quelques encablures.
Oui, justement, c'est comment la venue au kart de Michael Schumacher?
C'est précisément cette piste. Hein, c'est un peu le début de cette mode des circuits de karting. Hein, on est fin des années 70, début des années 80. Et le père Schumacher, à force d'emmener son fils avec son kart bricolé d'abord et puis en se faisant prêter des karts parce que le fils était un acrobate, il était très jeune, hein, c'était un peu la mascotte du club à Kerpen. Et voilà, c'est là que tout a commencé, au point que le circuit qui porte donc le nom de Wolfgang von Trips, qui est quand même le pilote allemand qui aurait dû être champion du monde en 1961, le seul qui a fait une vraie carrière à l'époque. Bon, c'était un aristocrate, c'était une autre époque, c'était la Formule 1 des années 50, et puis ça s'arrête en 1961 dans un contexte très dramatique. Hein. Von Trips, il se tue à Monza avec un accident qui avait fait 14 morts, enfin, une tragédie horrible. Et donc l'Allemagne a perdu là sa seule chance d'avoir un champion du monde de F1 et il n'y en a pas eu par la suite. Ce qui fait qu'effectivement aussi le karting a commencé à essaimer et il y a créé des vocations comme notamment celle de Michael. Mais Kerpen est vraiment devenu la plaque tournante pour la famille Schumacher parce que Rolf est devenu le gérant de la piste, du circuit. Elisabeth est devenue s'occuper de la cafétéria, etc. Et donc, en quelque sorte, ils habitaient là, quoi. Ils vivaient karting et Michael roulait tous les jours.
Et donc, c'est l'enfant du circuit, il roulait tous les jours, etc. En 87, hein, on va un petit peu avancer dans le temps, le jeune homme de 18 ans quitte l'école et devient mécanicien. Surtout, il est champion d'Europe Inter-A. Il croise déjà le fer à quelques pilotes assez remarquables qui vont tous faire carrière, en fait.
Absolument. Et il a la chance quand même d'être aidé par des membres du club à Kerpen, parce que ce n'est pas les parents Schumacher qui ont les moyens de payer des cartes au niveau international ou des saisons de championnat d'Europe ou de championnat du monde. Et là, il a déjà des mécènes, en quelque sorte, hein, des gens qui viennent pratiquer le kart en amateur, mais qui ont remarqué qu'il y avait une pépite dans leur club et qui aide Michael. Et il fait effectivement quelques performances sur la scène internationale. Il y a notamment une finale de championnat d'Europe en 87, je crois, à Göteborg avec... c'est toute une génération qui est baignée au karting. Hein, et c'est la première qui est vraiment complètement dans le karting. La génération précédente, il y en a certains qui n'ont jamais fait de kart et qui ont fait carrière en F1. Damon Hill...
Des volants...
Était plus, peut-être plus accessible aussi. Et le karting n'était pas encore un passage obligé. Ça l'est devenu. Et donc Michael se retrouve par exemple à ce championnat d'Europe à Göteborg avec Alessandro Zanardi... Orsini, un autre pilote italien, et ils se bagarrent comme des chiffonniers. Les deux Italiens se sortent. Alex Zanardi repart par miracle en poussant son kart. Michael arrive. Et finalement, Michael gagne parce que le père Orsini, donc de l'adversaire de Zanardi, monte sur le circuit et va régler ses comptes avec Zanardi. Donc Michael a tout de suite compris que pour survivre dans cet univers impitoyable, il fallait tous les coups étaient permis.
L'année suivante, on le voit grimper en monoplace avec deux programmes parallèles en Formule Koenig, donc c'était une monoplace de promotion en Allemagne, et en Formule Ford. Lors d'une manche sur le circuit autrichien du Salzburgring, Michael Schumacher est repéré par un personnage assez intrigant. Son nom, c'est Willy Weber. Qui est ce monsieur ?
Alors, Willy Weber, c'est un personnage certainement sulfureux parce que c'est un patron de boîte de nuit. Enfin bon, hein, sans dire qu'il était proxénète, c'est sûr qu'il ne faisait pas dans la grande classe, quoi. C'était un peu, ça pouvait parfois être un peu bling-bling, pour ne pas dire vulgaire. Mais c'est un grand passionné, Willy, et c'est un ancien pilote. Donc c'est un mec qui a vraiment la passion et qui a aussi sans doute le flair pour repérer des talents. Et il avait sa propre écurie de Formule 3, WTS, hein, Weber... je ne sais plus exactement, service, je crois, technical service, un truc comme ça, WTS donc, et en Formule Ford d'abord, et puis en F3, c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à Michael.
Et ils font une sorte de deal, de pacte, entre guillemets.
C'est-à-dire que Weber était pané de la dernière pluie, c'était un homme d'affaires surtout, et donc Schumacher n'avait pas les moyens de faire carrière, n'avait pas les moyens de grimper les échelons, parce que déjà pour passer de la Koenig à la Formule Ford, je crois que Weber l'avait un peu aidé, avec notamment le premier cercle des gens du club de karting à Kerpen. Et puis pour la F3, là c'est vraiment Willy Weber qui dit ok, d'accord, mais on signe 10 ans de contrat de management avec une commission... Hein, qui est de 20%, c'est en tout cas ce qui est resté dans l'imaginaire collectif. Et donc Willy est devenu monsieur 20%. Mais bon, en même temps, c'est Weber qui prend le risque, qui finance l'écurie d'F3, et qui, en misant sur Schumacher pour 10 ans, il pouvait tirer la prise au bout d'un an ou deux, mais là, c'était en pure perte. Donc je pense que c'était une association qui avait du sens et qui en plus était très fructueuse pour les deux parties.
Justement, on arrive en 89-90, à l'époque Michael Schumacher en F3. Il va notamment s'illustrer à Macao en s'accrochant, donc fin 90, c'est on va dire Macao, c'est un petit peu le Monaco des jeunes pilotes.
Hein, oui, absolument, c'est sur la F3 en tout cas.
Et ils vont s'accrocher avec Mika Hakkinen. Donc déjà à l'époque, on a une première rivalité entre guillemets.
Oui, mais c'est effectivement sa génération. Donc on parlait de Zanardi au karting, et puis voilà, Hakkinen, c'est vrai. Alors en F3, en championnat d'Allemagne, il débute, Michael. Il a fait un peu de monoplace, hein, de Koenig et Formule Ford, mais pas vraiment des saisons complètes, enfin bon, avec les moyens du bord. Et puis, il passe professionnel, on va dire, ou en tout cas pilote à temps complet avec WTS en F3 en 89. Il ne gagne pas le championnat, c'est Carl Wendlinger qui gagne devant Hans-Harald Frentzen et Michael, qui je pense était deuxième ex aequo. Et en 90, Michael gagne le championnat d'F3, championnat d'Allemagne de Formule 3. Je ne vais pas dire sans concurrence, mais Wendlinger et Frentzen n'étaient plus là.
Mit Bildern von der Siegerehrung vom Vizemeister Otto Rensing und dem strahlenden Meister Michael Schumacher geht die Formel-3-Saison zu Ende. Schumacher ist der Nachfolger von Karl Wendlinger als deutscher Formel-3-Meister. Platz 2 Otto Rensing, Rang 3 Wolfgang Kaufmann, dahinter Punkschürz und Müller. Die schnelle Lady Ellen Lohr belegt Rang 9.
Mais il est confronté à Mika Häkkinen qui à l'époque domine le championnat britannique de Formule 3 qui est un peu mieux coté que le championnat allemand. Mika vient d'ailleurs faire une course à Hockenheim en fin de saison et il gagne, il bat Schumacher, hein, il gagne, je crois qu'il est 5 secondes devant à l'arrivée. Donc Michael un peu, sinon vexé, du moins un peu interpellé par ce blond finlandais. Et donc, à Macao, ben, c'est le rendez-vous de tous les jeunes espoirs, de tous les championnats, hein, parce qu'il n'y avait pas un vrai championnat d'Europe à l'époque. Donc, il y avait le championnat anglais, le championnat allemand, il y avait un championnat au Japon. Et tout le monde se retrouve à Macao. C'est effectivement la grande messe de la Formule 3. Le match Schumacher-Häkkinen est intéressant parce que ça dénote déjà de leur tempérament respectif. Et donc Mika gagne la première manche avec Michael qui est deuxième, je crois il est à 2 secondes et demie ou 2 secondes 6. Et ça se courait en deux manches. Donc la deuxième manche, bah, Mika peut contrôler. Effectivement, Michael part en tête, Mika Häkkinen deuxième, mais dans son sillage. Donc ils font la course comme ça. Et grosso modo, bah, si Schum gagne la deuxième manche, mais avec Häkkinen qui termine à moins de 2 secondes, c'est Häkkinen qui est déclaré vainqueur du Grand Prix de Macao. Sauf qu'Häkkinen a un espèce de sursaut d'orgueil ou peut-être une volonté de... Voilà,
déjà marquer un territoire. Voilà,
et puis de gagner, de vraiment gagner, c'est-à-dire de gagner les deux manches. Il se fait qu'il a l'occasion, il déboîte l'aspiration à la longue ligne droite à Macao le long de la mer de Chine. Et donc il déboîte Michael avant le virage de Lisboa, là au fond. Et Schum le tasse et l'emmène dans le mur, quoi, sans état d'âme.
Ça, slip ni haïté ma sa Häkkinen.
Ça, Schum,
なんてことでしょう。いやー、これはもったいない。ハッキネンとしてはどうしようもないですね。
ハッキネン頭を抱えています。しかしシューマッハの方はリアウィングを壊したまま走り続けています。
Et Häkkinen n'en revient pas, parce que voilà, il n'a jamais été confronté peut-être à des comportements comme ceux-là. Donc Häkkinen dans le mur, Michael parvient à continuer, sa voiture n'étant pas endommagée, au contraire de celle d'Häkkinen, et Schumacher gagne le Grand Prix de Macao. Voilà, premier hold-up.
Et en parallèle, il y a un autre programme. On a parlé un petit peu plus tôt de Carl Wendlinger, d'Hans-Harald Frentzen. C'est que le jeune Schumacher est recruté par Mercedes pour courir dans le championnat du monde d'endurance. Qu'est-ce qu'on apprend à l'époque? Parce que à l'époque, c'est assez curieux. C'est plutôt vu comme un endroit pour les pilotes de F1 retraités. Et on fait une équipe de jeunes Allemands.
Oui, c'est l'âge d'or du groupe C, les courses d'endurance, où il y a pas mal de constructeurs engagés. Mercedes y revient un peu par la petite porte, parce que bon, Mercedes est encore marqué par le drame de 1955, Le Mans, etc. Mais ils reviennent quand même, parce que là, le temps s'y prête, et ils reviennent d'abord avec Sauber, et puis ils restent avec Sauber, mais vraiment sous l'identité Mercedes. Et il y a un homme qui est la cheville ouvrière derrière ça, c'est Jochen Nerpach, un ancien pilote qui a aussi été directeur sportif pour Ford et puis pour BMW en Allemagne, et qui est très intéressé par la promotion des jeunes pilotes. Il avait lancé le concept de Junior Team, à l'époque chez BMW, avec Marc Surer, Winkelhock, Giacomelli et d'autres. Et donc, chez Mercedes, ils proposent la même chose. Alors, Sauber gagnait déjà en groupe C avec des pilotes solides qui avaient l'expérience, Jean-Louis Schlesser, Jochen Bass, Mauro Baldi, etc. Mais ils proposent d'engager des jeunes aussi former des jeunes pilotes allemands. Mercedes avait quand même l'ambition d'aller en Formule 1 à moyen terme. Et donc, il y avait quand même une génération là qui était assez brillante. On l'avait vu, notamment ces trois-là. Et donc, il se retrouve, Michael, dans un contexte beaucoup plus professionnel, avec un grand constructeur, avec des ressources techniques et humaines importantes, financières aussi. Et donc, c'est plus dormir dans la caravane, dans le paddock F3, c'est courir le monde et faire des milliers de kilomètres en essai, privée, etc., avec une voiture qui était 900 et des kilos et qui faisait peut-être même plus et qui faisait 700 chevaux, alors qu'il sortait d'une F3 de, à l'époque, 170 ou 180 chevaux. Donc c'était vraiment un nouveau monde pour lui. Et il en a peut-être profité davantage que Frentzen et Wendlinger, parce que ces deux-là avaient la monoplace vraiment ancrée en eux, et ils pensaient qu'aller faire de l'endurance, c'était déjà presque une voie de garage. Et donc, ils ont vraiment privilégié la Formule 3000. Hein. Wendlinger courait pour Helmut Marko, son compatriote autrichien. Frentzen pour Eddie Jordan en 3000, avec la perspective d'aller en F1. Quoi. Alors que l'endurance, ça n'était pas a priori une porte d'accès à la Formule 1. Mais comme Michael n'avait pas le choix, parce qu'il n'avait pas les budgets et que Vinnie Weber n'était pas prêt à financer une écurie de Formule 3000, et Weber a quand même bien compris aussi que Mercedes allait mettre le paquet sur ce programme. Michael, au contraire des deux autres, qui participaient à des courses, hein, mais Michael, lui, a fait tous les essais, et puis, que ce soit en 90 et encore plus en 91, il était devenu un pilier de ce programme de Mercedes en endurance, où il a beaucoup appris, notamment au contact de Jochen Mass, qui était son mentor.
Est-ce qu'à cette époque-là, on se dit déjà, Michael, c'est le next big thing?
Alors, peut-être pas tout de suite, parce que en F3, hein, il était bon, mais bon parmi les bons, et notamment Carl Wendlinger et Hans-Harald Frentzen, qui avaient peut-être davantage, comment dirais-je, de fougue ou de talent naturel, de car control, comme on dit. Michael était plus travailleur, plus méthodique, plus analytique. Et il est devenu encore plus au contact des ingénieurs chez Mercedes et de la maison quand même très helvétique, hein, très suisse chez Sauber, avec Léo Reiss, avec Max Welty et Peter Sauber lui-même. Et du coup, au début d'ailleurs chez Mercedes, les gars ne juraient que par Frentzen, parce que Frentzen, au bout de deux tours, il faisait péter un chrono, et que voilà, c'était un mec qui avait un vrai... il s'appuyait vraiment sur un don inné. Michael, c'était l'éponge. Il fallait d'abord s'imprégner de tout, voilà, de tous les paramètres. Et puis, il a commencé, à force aussi d'entraînement, parce qu'il a fait des milliers et des milliers de kilomètres, hein, beaucoup plus que les deux autres, parce qu'il était plus disponible et plus volontaire. Et du coup, au bout d'un certain temps, c'était Michael le plus rapide de la bande.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy David, prise de son et montage Clément Rutter, voix off Marie Lisac.